et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui va voir les films même pendant les grèves.
Ça, c'est des rebelles, vous savez.
Vous ne rêvez pas, c'est bien un épisode classique au milieu du calendrier de l'Avent. Il y en a encore, on continue. Alors c'est un mois de décembre un peu spécial, vous l'avez remarqué si vous suivez l'émission, puisque depuis le premier, on a débuté un calendrier de l'Avent avec des recommandations.
Et puis en plus, c'est une petite reco de 2 minutes, donc ça prend pas beaucoup, ça peut vous donner des idées de films à voir le soir. Et surtout, vu que c'est des recommandations ultra personnelles par notre équipe, vous allez avoir que du bonheur et de l'amour. Vous allez pas nous entendre énerver, vous allez nous entendre parler de films qu'on aime.
Oui. Ça change.
Alors qu'aujourd'hui, ça va être plus difficile.
Aujourd'hui, ça va être plus difficile, ouais.
Aujourd'hui, Thierry, qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors aujourd'hui, on commence dans la jungle, dans la difficulté, dans les épreuves, dans les jeux vidéo avec Jumanji The Next Level.
Ensuite, on va voir du film noir, avec Brooklyn Affairs de Edward Norton, avec Edward Norton.
Et avec Edward Norton qui crie parce qu'il a des tocs.
Avec Edward Norton et un syndrome de la tourette.
If !
Oui, oui, oui.
Mais devant tant de noirceur par un film noir, on va aller voir un vrai film noir, un film gothique mais de l'animation, avec une nouvelle adaptation de La Famille Adams par les mecs qui ont fait Sausage Party, ça en dit long.
On n'épargnera pas les enfants. On tremble toujours avec un polar, on peut dire ça, polar sentimental, français, Seules les bêtes.
Alors on en vient à rêver, à se poser des questions sur l'éternité et à observer le monde qui nous entoure dans It Must Be Heaven, le nouveau film de Elia Suleiman qui avait eu un petit impact à Cannes.
Mais vous le savez, le meilleur reste toujours à venir dans Certains les Machos. Le meilleur reste à venir, c'est d'ailleurs le dernier film par les auteurs du prénom, avec Lucchini et Bruel.
Et parce que la semaine dernière, on vous avait épargné un film qui, on sait pas trop pourquoi, a quand même fait parler de lui. On est allé rattraper, se sacrifier pour vous et voir si on peut vous conseiller ou non d'aller voir la comédie romantique de décembre, Last Christmas.
Oui, mais on n'y va pas seul.
On n'y va pas seul, heureusement.
On y va avec Mélanie du podcast Il se confie. Quel programme !
Spencer.
Huh?
What?
Who are you?
Oh my God. You're Spencer's grandfather.
Are we in Florida?
And you?
Milo Walker. Did I die and turn into some kind of a small, muscular boy scout? Are we dead?
Bethany?
No, no, no!
Rich?
I'm the old fat dude.
This can't be happening!
My hip sure feels good now.
Look at my thighs.
Look at your thighs.
Look at my thighs.
Okay, we have some issues here. The game is busted!
Who's the game? I'm not it. I don't want to be it.
Welcome to Jumanji!
Le blockbuster de la semaine. Qui sort en urgence avant Star Wars parce que sinon il va vite se faire éclipser. Jumanji Next Level ou Jumanji 3. Oui, c'est le troisième quand même, mine de rien. Le précédent avait fait 962 millions de dollars de recettes et 3 millions d'entrées en France. Pas mal comme score. Pourquoi ne pas recommencer, me direz-vous ? Eh bien, c'est ce que vous allez me dire. Je suis avec Karl, Hera et Thierry, mon groupe d'aventuriers préférés. Fallait-il remettre une pièce dans la machine ? Je rappelle, on a les mêmes que l'épisode précédent avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Et on sort aussi deux vieux de la naphtaline, Danny Glover, Danny DeVito. On a échappé à Danny Briand. Hera, tu n'as pas l'air charmé par l'aventure.
Si, l'aventure de départ, le premier Jumanji, de ouf. Celui-là, non, pas du tout. Il n'y a pas un ressort scénaristique qui fait sens, qui a du sens, qui sert à quelque chose. On fait que de donner des ressorts d'aventure, non pas pour faire avancer, mais pour limite donner des sketchs, pour essayer de donner de la comédie. Sauf que ça sert à rien, ça m'a beaucoup fait penser à Retour à Zombieland, enfin l'effet que m'avait fait Retour à Zombieland de chacune des choses que tu fais n'a aucun enjeu et donc tout ça ne sert strictement à rien. Il y a un concept de départ qui est que quand les personnages se retrouvent dans le nouveau Jumanji, il change et incarne d'autres personnages, sauf pour le personnage de Martha, qui reste Karen Gillan, parce que évidemment, faire sauter l'archétype féminin de base de la petite héroïne pour mettre un mec à sa place, bah ça aurait été un peu trop challengeant et ça aurait créé un peu trop d'une dynamique intéressante. Donc on va éviter, on va bien la laisser dans ses clous pour qu'elle continue de faire son rôle de nana, mais le reste pas de souci. C'est dès le début, le film m'a saoulé pour ça en fait, parce que ça se voulait innovant dans le fait d'échanger des persos sans aller au bout des choses du tout.
Le perso, c'est le personnage de la fille stéréotypée dans les jeux vidéo et il y a un décalage avec l'adolescente qui est mal à l'aise avec son corps et du coup la personnage ultra sexy et la fille qui a un problème avec le corps, tu vois, il y a un décalage, il y a un intérêt, il y a un relief.
Sauf que ça, c'est le précédent, le premier du reboot en fait, qui faisait déjà ça, donc du coup, on l'a déjà exploité. Surtout que là, on ne te remontre pas les persos avant, à part les deux vieux, qu'on va présenter un petit peu parce que c'est ces personnages-là qu'on ne connaît pas et qui vont se retrouver dans un archétype différent. Étant donné qu'on connaît déjà les persos, puisqu'on est censé déjà avoir vu le premier reboot là, il fallait tous les changer. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec Hera, quoi. Quitte à ce qu'éventuellement, il n'y ait pas forcément stéréotype qu'on mette l'autre fille dans ce personnage-là, ça aurait été un peu naze, mais tant pis, mais oui, en effet, changer. Pourquoi tous les autres auraient le droit à jouer autre chose et Karen Gillan, du coup, se retrouve à devoir jouer le même perso, ce qui est du coup dommage, parce que le seul intérêt de ce truc là et le seul truc qui fonctionne de temps en temps, et je dis bien de temps en temps avec des énormes guillemets, c'est le fait que des personnages qui sont en réalité des avatars qu'on a connus dans un stéréotype particulier sont obligés de jouer différemment parce qu'ils sont contrôlés par une autre personne. Donc du coup on pense surtout les deux ressorts comics, c'est le personnage de Dwayne Johnson et le personnage de Kevin Hart qui sont contrôlés par Danny DeVito et Danny Glover. Donc du coup ils vont faire des blagues de vieux parce qu'ils sont pas habitués à avoir un beau corps, les mêmes principes que le premier, c'est marrant 10 minutes, après ça tourne un peu en rond, il y a des échanges à un moment donné, c'est là qu'on voit que il y a deux personnes qui s'en sortent plutôt bien, c'est Jack Black et Awkwafina, qui est la nana qui joue Spencer, puis qui joue Danny DeVito, et ce que me disait Hera en plein milieu de la séance, c'est que c'est assez marrant, parce que quand elle prend ce rôle-là, tu vois Danny DeVito en vieux, tu vois, elle prend les mimiques, elle prend la courbure, elle prend la voix, et c'est la seule qui a donné un effort à ça. Les autres, John Johnson n'est pas un grand acteur, il fait ce qu'il peut malheureusement, à part faire des gimmicks, il a un peu de mal, mais... c'était le seul intérêt, oui, en effet, le film propose rien d'autre que ça, quoi, à part faire des blagues.
Non, mais moi, le scénario, oui, c'est vrai qu'il est con, mais je m'en fous, je vais pas dans un Jumanji pour avoir un scénar écrit par Sorkin, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, quand il y a 12 000 autruches qui leur courent dessus et que eux, ils fuient en buggy et que ça n'a rien à foutre là où scène où ils se font poursuivre par les babouins. Sauf que y a trois scènes comme ça avec des idées et que ouais le reste du temps moi l'image que j'ai de Jumanji, de la série animée et du premier film avec Robin Williams, c'est partout où tu te tournes t'as une merde. Et là y a pas vraiment ça, on discute pendant 15 minutes, ouais le temps de faire les sketchs de tout le monde et après faut les faire avancer un petit peu dans l'action, vas-y balance un truc. Même on peut tomber sur des trucs qu'au truc du carrelage piégé quoi qui t'envoie des flèches et ça c'est à la fin hein. C'est pas au début pour te représenter le truc, c'est à la fin on te refoule le truc du carrelage piégé. C'est le truc qu'ils avaient mis dans l'intro d'Indiana Jones avant le générique, quand vous faites trois références à Indiana Jones par plan réfléchissez-y quoi.
Et oui c'est vrai que le scénario est aussi con qu'un scénario de jeu vidéo, ça faut être honnête, puisque c'est surtout un prétexte à tableau, c'est juste ça. Et on peut se plaindre sur pourquoi est-ce qu'ils remettent le film, pourquoi est-ce qu'ils relancent le film, on en parlait en sortant, c'est une raison complètement débile. Mais il fallait relancer le film et on a pris la version la moins crédible. Donc c'est aussi réaliste que le scénario. Ah, c'est la fin du monde, on y va, à l'action, vous êtes des aventuriers, c'est parti. Les enjeux des persos, on s'en fout un peu. Mais il y a Dwayne Johnson qui fait des grimaces. Voilà. À l'été prochain. Grosso modo, c'est ça.
Moi j'ai pas trouvé ça divertissant du tout, j'étais désespérée à chaque fois, genre il y a un des personnages qui rentre pas dans le jeu, t'es là, oh là là, le fusil de Tchekhov, elle va redébarquer à la fin pour tous les sauver, sans déconner, voilà, c'est que des trucs ultra prévisibles dans toutes les séquences, et de toute façon tu sais qu'ils vont s'en sortir, tu sais qu'évidemment pour rajouter un espèce de vieux suspense, ils veulent leur rester qu'une vie, mais il y a pas une fois où ils sont réellement en danger, et pas de danger, pas d'enjeu, c'est plat, tu t'emmerdes.
Oui, c'est plan-plan, quoi.
Ouais, mais c'est terriblement plan-plan. Du coup, je trouve même pas ça fun à regarder.
Alors moi, j'ai pas vu le précédent. Je sais pas, par rapport au précédent.
C'est plus sympa. Le précédent, on s'attendait tellement à ce que ce soit affreux sur le papier qu'au final, c'était plutôt divertissant, plutôt prenant.
Vous vous attendiez à quelque chose ?
Non, à la limite, non, justement, je m'attendais à la limite, le côté next level, le côté plus d'enjeux parce qu'ils connaissent un peu l'univers et du coup l'univers se métamorphose parce que c'est le principe de Jumanji, c'est de t'apporter du challenge et le jeu est censé être suffisamment intelligent pour te créer du danger. Donc tu t'attends à la même chose en plus fort, de toute façon, ce que t'attends d'une suite généralement, à part ça. Mais là où je vais être un peu sur la réserve par rapport à ce que tu disais, Karl, c'est que même moi, les passages avec les autruches, j'étais absolument pas diverti, je ne captais rien à ce qui se passait à l'écran, ça coupait tout le temps. La seule scène d'action que j'ai trouvé sympa, c'était les ponts suspendus avec les singes, où là, j'ai trouvé qu'il y avait de l'enjeu, qu'il y avait des trucs à regarder, et qu'en tout cas, il jouait bien avec l'espace et la géométrie. Mais au-delà de ça, et puis en plus, l'évolution en niveau, c'est vrai que là, par contre, pour le coup, je rejoins Karl, l'évolution en niveau, c'est tu sais que tant que le niveau suivant n'est pas arrivé, il ne se passe rien. Donc le côté une couille peut arriver n'importe quand, ça le retire totalement.
Bah, contrairement à beaucoup de blockbusters, au moins celui-là, il se prend pas pour plus qu'il est. C'est-à-dire, il est con, il est direct, mais c'est pas comme chaque fois que Disney te sort un film et qu'il t'explique que c'est une nouvelle révolution à la fois cinématographique et sociale et que bon, c'est le Roi Lion plan par plan, les gars. Enfin...
Vous l'aurez compris, Jumanji, c'est vraiment s'il vous faut votre dose de blockbuster et de popcorn, mais faut vraiment en vouloir, quoi.
Okay, listen. I got something wrong with me. That's the first thing to know.
I got threads in my head. I got threads in my head, man.
I twitch and shout a lot. Makes me look like a damn freak show.
Can't you ever cut that out?
I'm sorry. Touch it, Bailey. I'm sorry. But inside my head's an even bigger mess. I can't stop twisting things around. Words and sounds especially. Have to keep playing with them until they come out right. Sorry. Like I said, a damn mess.
Le ratage de la semaine, The Norton Affair. L'histoire d'un détective privé qui a le syndrome de la Tourette. Interprété par Edward Norton, devant la caméra d'Edward Norton, pendant 2h25. C'est long. C'est très 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 long. Et pour subir avec moi cette épreuve, Thierry, Hera et Karl. Salut les amis. Bon, alors Edward Norton n'est pas tout seul, c'est étrange, mais il y a d'autres acteurs avec lui. Gugu Mbatha-Raw, enfin Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe et Bruce Willis. Un casting sympa, mais pas forcément mis en valeur par ce film.
On a eu le temps de voir arriver Willem Dafoe ?
Oui, avec la barbe.
Il était dans le fond. Hein.
Ah ouais.
Non, alors, on a beaucoup dormi pendant le film, soyons honnêtes. C'était chiant à mourir.
C'est marrant que tu dises ouais, l'histoire d'un détective qui a le syndrome de la Tourette. Parce que le film parle d'énormément de choses, hein, mais c'est tout ce qu'on retient.
Et dans les années 50, ça se veut film noir aussi, et on est à fond dans les clichés film noir.
Le racisme, c'est pas bien.
Oui, et le méchant est un vilain promoteur raciste qui veut raser les quartiers pauvres, et donc les quartiers noirs, pour des projets immobiliers.
Est-ce qu'on peut parler de l'introduction du méchant ? Alors parce que... Le méchant, on voit pour la première fois une réunion à la mairie, parce que le méchant est dans la mairie. Son visage est caché, on voit qu'on lui file deux portefeuilles, et puis là tu vois le maire et ses potes qui sont en train de rire dans un bureau fermé, cigare à la main, et ah 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 ah. Vraiment, le truc que même Eisenstein aurait trouvé un peu abusé niveau représentation des capitalistes. Et là, t'as le mec qui arrive, et la caméra cache toujours son visage. Bon, t'as reconnu que c'est Alec Baldwin, parce que de toute façon, entre ses carrures et le fait qu'il est vénère tout le temps, c'est Alec Baldwin. Et à un moment, il se casse, il revient dans la pièce, et d'un seul coup, la caméra le filme. Strictement rien n'a changé, hein, mais c'est juste, on l'a caché pendant 3 minutes, et là, c'est Baldwin. C'est le 4 des frères que vous connaissez, celui dont vous avez quelque chose à branler. Il y a l'usual suspect qui soutient Trump, il y a les deux autres, je suis sûr qu'ils ont eu une carrière, mais faut encore m'expliquer ce qu'ils ont fait.
C'est assez marrant la façon dont tu le décris quand tu dis que justement, de toute façon, à part être énervé, c'est pas faire grand chose. C'est vrai qu'Alec Baldwin, il a besoin d'être cadré hein, pour être dirigé, parce que soit il joue des méchants films, soit il est un peu perdu. Qu'on fait la dernière Mission Impossible où il sait pas trop ce qu'il doit jouer parce que il doit pas s'énerver. Là, c'est vrai que c'est un casting que Norton a juste pris pour les archétypes qu'ils peuvent représenter et pas pour ce qu'il peut en faire. On pense à Willem Dafoe qu'on a à peine remarqué, alors que c'est Willem Dafoe. Et on pense à Bruce Willis, bon, qui fait un caméo au début, il est venu chercher son chèque, il est parti, puisque de toute façon, Bruce Willis hein, le dit clairement en interview, il n'en a strictement plus rien à foutre de sa carrière. Donc, je pense que quand tu prends Bruce Willis, tu le prends juste pour dire « C'est cool, j'ai eu la gueule d'un mec que j'aime bien ». Mais le pire de tout, c'est assez marrant, hein. Ça reste Edward Norton, quoi. Ça reste le mec qui décide de se mettre en scène lui-même et qui est du coup pas foutu de se diriger.
Putain de rôle super dur quoi.
C'est ça, oui c'est vrai. Mais t'as sorti une remarque qui était intéressante, c'était que généralement on a dû dire tu veux un Oscar, je veux un handicapé. Et il l'a pris vraiment au mot. Le film a beaucoup de choses à raconter. Il pourrait faire une enquête, un film noir qui pourrait être prenant s'il se démerdait à peu près niveau scénario. Et en soi, sur la trame, même si c'est très cliché, ça pourrait aller. Mais il te rajoute ce putain de personnage qui devient insupportable, qui prend tout l'écran et qui prend tout le son. Et tu te dis mais t'étais obligé de rajouter ça apporter de la crédibilité à ton personnage, ça le gâche plus qu'autre chose, quoi.
En plus, la justification, c'est donc le mec, il a des tocs, il est nerveux des mains, il se reprend tout le temps, sauf quand le scénario l'exige. Et aussi, il a une mémoire édétique, je sais plus, enfin, il se rappelle de tout, quoi. Et c'est censé être ça, la justification de pourquoi il a tous ses tocs. Au début, t'as Bruce Willis qui lui fait « J'ai besoin de ta mémoire exceptionnelle pour écouter les consignes et écouter une conversation. » Alors si je dis « Je vais aux chiottes », ça veut dire « Suivez-moi ». Et si je dis « On a un problème », ça veut dire « Venez me chercher, j'ai un problème ». pourquoi t'as besoin du gars avec la mémoire eidétique pour ça? Donc même la justification du perso est un peu vide.
Alors on a dit que donc si il va où, il y a un problème?
Où ça?
Ah bah tu vois, tu t'en rappelles pas.
Bon ouais non, puis il est ridicule quoi. Non mais il a zéro justesse, hein, il capotille, c'est, je veux dire c'est un rôle super dur, un mec avec le syndrome Gilles de la Tourette, donc c'est-à-dire qu'il va prononcer des phrases comme ça, dire ce qui lui passe par la tête hein, de manière inopinée. Le mec, c'est pas Joaquin Phoenix, quoi. Et...
un dialogue sur deux, d'un seul coup, il devient Dustin Hoffman dans Rain Man.
Parce que, imaginez Joker, mais avec Edward Norton à la place.
Je retire limite ce que j'ai dit sur la prestation de James McAvoy en Beg dans ça, chapitre 2, qui se débrouillait quand même bien mieux que ça. Rate-toi un petit peu.
Non, mais j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, faut être honnête. C'est effectivement, ça cabotine dans tous les sens. Comme on disait à la sortie du film, il se vautre dans les clichés du film noir des années 50. Il se vautre dans les codes. Alors, on a compris qu'il les maîtrisait, hein, y a pas de problème. Alors là, ouais, on est dedans. Mais justement, il propose rien d'autre. Et donc, si toute l'originalité du film, elle est basée sur son cabotinage et son personnage, c'est assez raté. Le seul point que je mettrais, puisque je vais quand même essayer de mettre un point positif, je dirais que c'est l'écriture des dialogues que j'ai trouvé plutôt bien foutue. J'ai trouvé que ça s'écrivait, que c'était plutôt bien écrit, pas toujours hyper clair, mais plutôt bien écrit et bien respecté en termes de rythme et respecté en termes d'époque. Voilà.
Alors, le scénario, donc, Motherless Brooklyn, dans du film, c'est tiré d'un roman de Jonathan Lessem. Non, c'est pas Edward Norton qui a écrit lui-même le truc, il l'a adapté, mais voilà.
Comme beaucoup de monde. Après, moi, je vous avoue que de toute façon, même quand j'avais juste vu la bande-annonce, je m'attendais à ça. Edward Norton, c'est quelqu'un auquel je crois plus depuis très longtemps. Quand tu prends par exemple Birdman d'Iñárritu, Edward Norton joue un acteur qui se mêle beaucoup trop du scénario, qui veut beaucoup trop être impliqué, qui veut absolument diriger le truc, quitte à refaire la mise en scène. Là, il est absolument parfait parce que c'est exactement ça, Edward Norton. C'est le mec qui a caboté tous les films dans lesquels il allait en grande majorité, a toujours voulu tout refaire, à savoir mieux que les autres ce qu'il faisait. Demande à Fincher ce qu'il a pensé d'un tournage avec lui. Il avait déjà fait Au nom d'Anna, c'était pas terrible. Et voilà, moi je m'attendais à ça, hein. Je veux dire, en soi, je m'attendais pas à un miracle.
Après, il y a un vrai bon boulot de l'équipe de prod. La reconstitution, tout ça, ça c'est un pack. C'est vraiment quand Norton essaye de faire du cinéma...
Donc en gros, si j'ai une reconstitution, enfin non, moi je vais pas voir ça au cinéma, je vais au Puy du Fou, je vais à Disneyland, je vais à Universal Studios, mais je vais pas voir ça quoi.
Tu veux une reconstitution des films des années 50, tu regardes des films des années 50.
Oui.
Ouais, voilà, tout simplement.
Non, mais tu veux de la reco, sur l'affiche, il y a marqué que c'est le nouveau LA Confidential. Bah regardez LA Confidential. Voilà, c'est bien mieux.
Vous allez vous faire du mal si vous voyez ça juste après. Bien, nous clôturons le dossier. Je pense que c'est mieux comme ça.
L'affaire. What a lovely morning. Time to wake the children.
Hello world, hear the song that we're singing.
All right, I'm awake.
A whole lot of loving is what we'll be bringing.
Darling, is that really as tight as you can make it?
Hello.
Wednesday, what do you have there?
I'm not sure.
There's usually a murderous clown attached to the other end of these.
We'll make it.
Tu sais claquer des doigts? Non, tu sais pas claquer des doigts.
Non.
Ah ouais, mais bon, du coup... Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Je fais tout, j'ai le micro dans les mains, j'ai mes notes et je claque des doigts en même temps.
Il a balancé le micro à chaque fois en l'air, le temps de claquer, il l'a rattrapé. Niveau synchro, c'est magnifique.
Vous aurez reconnu cette petite impro, claqué de doigts, le générique de La Famille Addams. La Famille Addams est de retour, la famille monstrueuse. Un film en animation de Conrad Vernon et Greg Tierman, qu'on connaît surtout pour Sausage Party. Voilà, voilà, voilà.
On est ravis de se souvenir d'eux pour Sausage Party.
Alors, Conrad Vernon, lui, par contre, il avait aussi réalisé Monstre contre Alien et Shrek 2.
Ah ben non, mais c'est très bien.
Et Greg Kierman avait réalisé Tom et ses amis, Tom le train.
Ah ben c'est moins bien.
C'est sur des rails, quoi, un peu comme le film La Famille Addams.
Oh.
Avec, en voix française, Mélanie Bernier en Morticia Addams, Kev Addams, c'est pas une blague, c'est vraiment ça, en Gomez Addams, et Alessandra Sublet en Margot Nidlet, la méchante, en VO, et d'ailleurs nous c'est la VO que nous avons vue, voilà, parce que bon, comment dire, Kev Adams, c'était pas possible. Charlize Theron en Morticia Adams, Oscar Isaac en Gomez, Chloé Grace Moretz en Mercredi, et Snoop Dogg en Cousin, machin.
Grand dialogue.
La famille Adams s'installe dans un coin paisible où elle ne sera pas persécutée, un coin perdu, loin de tout, le New Jersey. Mais de nouveaux voisins s'installent. Une décoratrice, Margot Needler, vient s'installer et construire une charmante ville du doux nom d'Assimilation, qu'elle a entièrement redécorée au goût uniformisé, comme on aime bien le faire dans les émissions de déco, puisque c'est son fond de commerce. Une belle ville bien uniformisée, comme on les aime. On se retrouve avec une opposition qui nous fait furieusement penser à Édouard aux mains d'argent, avec la maison hantée un peu le bizarre et gothique, et la petite maison proprette, avec tout uniformisé, tout en carré, tout bien, tout propre, rien qui dépasse. Mais est-ce aussi brillant que l'œuvre de Burton ?
Je ne vais même pas comparer à Burton, parce que oui, c'est juste dans l'imagerie, parce qu'évidemment, le reste m'a fait beaucoup penser à du Adams, et on est en plein dedans. D'un autre côté, est-ce que l'intégralité de l'œuvre de Burton n'est pas influencée par les travaux sur la famille Adams ? Voilà, c'est logique, c'est des univers qui se répondent énormément. Après, c'est dans le folklore américain et dans beaucoup de médias satiriques américains, dans des parodies ou dans des choses qui s'en moquent, le New Jersey a toujours été vu comme l'état des gros beaufs qui se font tanner la peau pour être tout le temps bronzé avec des coiffures improbables pour avoir toujours la classe et la mode parce que, bah, en gros, le New Jersey, c'est le nord à tuning des États-Unis. Donc, c'est assez marrant qu'ils s'installent là et qu'ils se retrouvent face à cette espèce d'uniformisation totale. Et c'est aussi le combat, voilà, des personnes qui essayent d'être un peu plus uniques et qui veulent juste vivre leur délire face aux gens qui disent non, on doit tous se ressembler, c'est comme ça qu'on est heureux parce que comme ça, il n'y a rien qui dépasse et tout est politiquement correct.
Le rêve américain.
Ouais, et du coup, c'est assez marrant parce que ça a aussi le reflet sur le cinéma parce que, bah, justement, on est quand même dans une période où, on l'a vu dernièrement avec Disney qui essaie d'asséniser tellement ses produits que même quand ils lancent leur plateforme, ils vont préciser visiblement sur tous leurs anciens programmes, attention, il y avait des propos choquants à l'époque, hein, oulala, on n'assume pas. C'est une autre époque, quoi, peu importe, mais bon.
Là, on est en 2019, ouais. La famille Adams. Alors, tu dis c'est une autre époque. Oui, on a un design qui est très inspiré des premiers dessins, des dessins de Charles Adams à l'époque dans le New Yorkers à la fin des années 30. Et donc le design des persos ressemble à ça un peu. Alors c'est un peu exagéré. Par exemple, Mercredi a la tête plus allongée que dans les designs, mais bon, c'est des petits arrangements. Mais on est dans l'esprit global. La nostalgie, ça marche bien avec 2019, c'est bien assimilé, ou est-ce qu'on a tout justement décapé parce qu'on est en 2019 et qu'on est dans le politiquement correct ?
Ah bah clairement. Après, moi c'était ce qui m'avait charmé justement. Toi, je sais que t'étais un peu réticent à l'idée d'y aller, et il y a beaucoup de gens qui trouvaient le graphisme un peu étrange. Après, quand on connaît la famille Adams, et quand on se souvient de ça, enfin, bon, on s'en souvient, on l'a pas vécu, hein, mais on a vu les dessins. Oui, en effet, c'est les graphismes type qui avaient été utilisés à l'époque, donc c'est un très bel hommage visuel. Au niveau de l'ambiance, au niveau de la forme, ça ressemble beaucoup au film de Sonnenfeld, donc j'imagine que Sonnenfeld était aussi très, très proche de ce qui se faisait avant. Donc on retrouve tous les petits gimmicks avec cet immense manoir, avec la chose qui déambule un peu partout et fait plein de choses un peu idiotes ou des fois pas forcément très correctes. Mais, et on joue énormément sur justement tous ces personnages qui sont en fond, en fait. Sauf que généralement, il y a une intrigue au milieu qui est super sympa. Là, sur le papier, je trouve que tout fonctionne plutôt bien. L'intrigue est sympa, c'est typique. Ce qu'on avait déjà vu, puisque même t'as le côté l'uniformisation qui arrive, Mercredi qui va se rapprocher d'une fille de son lycée et commencer à porter de la couleur, ce qui fait criser à la famille. Ça rappelle justement Mercredi qui, dans le second film par exemple, allait en camp de vacances et était toujours tenu entre est-ce que je fais péter le camp de vacances parce que c'est pas normal d'être au milieu de tous ces gens qui sont heureux et gentils, ou est-ce que j'essaie de sourire et d'être heureuse aussi parce que je suis amoureuse d'un garçon. Donc ça me fait penser un peu à ça. Donc du coup, on est sur un sentier battu, mais beaucoup trop battu au final. Ça propose pas un scénario qui innove suffisamment, et si l'idée de base est là, dans le traitement, on est dans du classicisme, et ça n'ose jamais avoir la part de folie dont on a besoin pour ce genre de film. Même au niveau de la mise en scène, c'est ultra plat, et c'est dommage parce que l'animation, bah, le graphisme est joli, l'animation est plate, c'est très très lisse. On est dans l'animation, merde, c'est là qu'on peut se lâcher, qu'on peut faire plein de trucs qu'on n'oserait pas faire en live action. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font pas, quoi ?
C'est vrai qu'il y a un schéma qui revient assez vite, c'est le scénario avance, un sketch, le scénario avance, un sketch, le scénario avance, un sketch, le scénario avance, un sketch. J'aime bien l'esprit, les petits gags sont sympas, j'aime bien. Bon, même s'il y a beaucoup de gags repris des anciennes versions, des anciennes éditions, mais quelques originaux aussi. Tu parlais de la chose justement, qui va traîner sur internet, voilà.
On va pas vous dire ce qu'elle regarde, mais coquine la chose.
Non, il y a plusieurs sketchs, plusieurs trucs qui m'ont bien plu. Après, on est sur des thématiques d'aujourd'hui. Ici, qu'est-ce qui nous fait flipper ? Ben, c'est l'uniformisation. C'est également aussi, parce qu'on parle de l'uniformisation, mais il y a aussi un comité de surveillance des voisins qui est directement neighbor peep. Quoi. C'est observer, mais c'est mater les voisins, quoi, ouais, carrément.
Alors, là, on est dans une exagération, mais qui n'est pas si loin que ça. Parce que déjà, on est dans, enfin, aux États-Unis particulièrement, les caméras à tous les coins de rue et des gens qui regardent en boucle, ça existe déjà. Donc, on avait Snowden qui avait énormément parlé des webcams, donc tout n'est pas forcément réel, mais en même temps on sait qu'on peut être observé n'importe quand si on suit son idée. Donc c'est une peur très commune. Et par contre, des gens qui, enfin, il y a les Neighborhood Watch qui vont aller une fois par jour limite, c'est trois pairs différents qui vont faire le tour du quartier toute la nuit. Et ça, c'est courant dans ce genre de banlieue américaine. Donc en soi, c'est une exagération assez logique. Ça fait peur, mais on est déjà dedans, quoi. Donc du coup, est-ce que ça le critique ou est-ce que ça annonce que ça peut arriver? On est un peu dans l'entre-deux, quoi. C'est triste.
Donc oui, puis moi, je pense pas que les gamins qu'on amènera voir la famille Adams aient vu Snowden. Je suis pas sûr.
Donc, non, mais bon, après ça, enfin, je veux dire, le côté surveillance par ton téléphone, ça va. Au moins, c'est acquis, c'est facile à comprendre, quoi.
La modernité, je vois aussi à un moment quand ils vont brûler, quand les gens vont manifester contre la famille, ils vont pour les brûler. Bon, ils ont pas de torche parce qu'ils sont modernes, ils sont dans une banlieue américaine. Du coup, ben, ils ont l'application torche. C'est un peu comme on a vu à un moment l'application sabre laser, tu vois. C'est comme ça.
Devant une famille qui est gothique et qui se complète dans la noirceur, le peu de lumière que ça peut apporter, ça leur fera peur, ils n'ont pas besoin de vraies torches. Hein.
Moi, je m'attendais vraiment à une catastrophe quand tu m'as amené voir ça. Et non, finalement, ça passe bien, c'est plutôt sympa. En tant que grand, on ne s'embête pas.
Oui,
ce qui est quand même un point important dans ce genre de dessin animé, parce que les gamins, il faut les amener voir ça. Hein, on ne les colle pas directement devant la VOD, devant l'ordinateur. Donc voilà. Bien, la famille Adams. Pourquoi pas pour une sortie en famille, si vous avez déjà vu La Reine des Neiges. Peut-être un moyen d'esquiver La Reine des Neiges, qui sait. Loin d'être une horreur, mais loin d'être une réjouissance. Un entre-deux un peu aseptisé, dommage.
C'est ça. Moi, j'aime énormément les deux films de Sonnenfeld, parce que j'ai connu La Famille Adams avec ça, et j'avais l'âge qu'il fallait. Je les ai regardés en boucle. Je suis content de retrouver les personnages. Je suis content de retrouver les vannes autour des personnages. Je trouve que les dialogues sont bien foutus, et par contre, ça fonctionne pas, quoi. Après, voilà, je suis content des éléments, mais je suis pas content de leur application.
C'était La Famille Adams.
La linéa.
Ouais. J'arrive pas bien à faire Snoop Dogg.
J'ai pas le temps de m'intéresser à ces histoires.
Vous l'avez peut-être croisé.
Non.
Je voulais vous poser des questions sur Evelyne Ducas.
Vous l'aimez, votre mari? Oui. Alors vous ne risquez rien.
C'est ton mari?
Ouais.
Je vais lui jeter un sort. Elle est tombée gravement malade.
Arrête!
Il y a du nouveau pour la disparue?
Ouais, je suis pas au courant.
Qu'est-ce que t'as fait?
Qu'est-ce que tu fouilles?
On est en décembre. Les fêtes arrivent. On sent le climat qui commence à être à la joie, à la bonne humeur, à l'amour. La semaine dernière, on a vu Chanson douce. Cette semaine, on continue donc dans le glock, le malsain, avec une disparition, mais dans un contexte divers cette fois-ci. Thomas, tu es allé voir Seules les bêtes. Seules les bêtes, un film de Dominique Moll, un monsieur qu'on connaît parce qu'il nous avait fait Harry, un ami qui vous veut du bien, et plus récemment, L'autre monde, le film qui avait fait un petit peu parler d'eux, avec cette fois-ci Valeria Bruni Tedeschi, aïe aïe aïe, mais aussi Laure Calamy,
combien ?
Damien Bonnard, qu'on a vu dans Les Misérables, et Denis Ménochet. Thomas, c'est à toi.
Alors si seulement il y avait du mystère et du suspense, ça serait bien.
C'est ce que le film semblait annoncer. Quand tu regardes là, c'est visiblement une histoire de disparition et d'enquête.
Oui. Alors oui, seulement, alors on va aborder ça dans le développement, mais si tu veux, c'est un prétexte. Oui, alors sur le papier, c'est un super film. C'est tiré d'un roman de Colin Yell. Bon, d'habitude, il fait du polar, donc il est habitué à ça. Ici, on est dans la région du Kos ou de la Kos. Bon, bref, on est sur des plaines enneigées, sur un plateau. On est paumé dans l'arrière-pays. On est bien chez les bouseux, tout va bien. Et il y a une histoire de disparition. On retrouve une bagnole, mais sans sa conductrice. Et donc là, au milieu des champs, il y a une bagnole. On ne sait pas où elle est. Voilà. À partir de là, donc on se dit, c'est super, c'est une disparition. On va avoir une enquête. Le film va être chapitré autour de personnages à chaque fois. On va suivre un personnage, on va nommer le titre, le chapitre va avoir le nom du personnage et on va suivre ce personnage et voir son point de vue. Et on se dit, bah, c'est super, ça va être un film puzzle, ça va être un film à clé. on va voir la vision de l'homme, et en fait on se doute bien que il y a des trucs qu'on comprend pas et qu'en fait il y a d'autres raisons qui vont nous être dévoilées. Et donc ça, sur le papier, c'est génial. En plus, il y a des super acteurs, tu l'as dit. Et ben, c'est que sur le papier. Parce que en fait, ce qui intéresse le réalisateur et son scénariste, c'est pas tant le mystère, ils s'en foutent un peu, c'est un prétexte. C'est les amours insatisfaits de ces pauvres protagonistes. Et en fait, chacun va courir après un amour illusoire, un amour qu'il ne peut pas avoir. Et du coup, on est déçu parce qu'effectivement, on n'est pas venu pour ça. Et comme si tu viens pour un film de mystère et d'enquête ou quoi que ce soit, faut pas venir quoi. Même le gendarme à la masse, ça n'a rien à foutre des disparitions et des meurtres. Alors le côté puzzle, on l'a, hein, parce que chaque fois qu'on a un nouveau personnage, on a un nouveau point de vue, et en fait on découvre que en fait machin qui est blessé, en fait il s'est pas battu avec truc, mais c'est pour une autre raison. Mais c'est balancé comme ça, sans trop ménager le suspense, en fait. C'est balancé dans son chapitre, mais sans plus d'effet que ça, parce que c'est pas ce qui intéresse le réel. Et donc, un film qui s'intéresse pas à ce qu'il filme, c'est dommage. Voilà. Donc, si vous voulez voir Lorcani se taper Bonnard, vous pouvez y aller. Si vous voulez voir Valeria Bruni Tedeschi avec une jeune fille dans une chambre d'hôtel, très bien, vous allez vous régaler. Sinon, vous allez attendre. Quoi. Alors, il y a des grands acteurs, hein, je l'ai dit. Lorcani, je l'adore. On la voit 10 minutes au début. Denis Ménochet, extraordinaire, mais on le voit à la fin. Et entre les deux, il y a une heure et demie de ventre mou, à peu près. Voilà. Sur un film de 2 heures, ça fait beaucoup.
Est-ce qu'il y a au moins quelque chose à sauver, selon toi, dans Seules les Bêtes ? Peut-être une mise en scène, peut-être quelque chose.
Je l'ai dit, les acteurs. Et c'est dommage, parce que, tu vois, autant il y a une semaine ou deux, la semaine dernière, tiens, on parlait d'À couteau tiré. Et je disais, j'aime bien les films d'enquête, parce que ça part dans les pistes et tout. Et là, c'est un film qui, au début du film seulement, et c'est ça qui est triste, c'est qu'au début du film, il pose des pistes. Est-ce que c'est un meurtrier ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a disparu, qui s'est barré ? Est-ce que c'est une histoire de coucherie ou quoi ? Est-ce qu'il y a du surnaturel ? Parce qu'il y a des rumeurs comme ça. Tu te doutes bien, dans la campagne profonde, il y a des rumeurs, tu comprends. Celle qui a disparu, elle n'était pas heureuse en couple. Hop, et notre personnage n'est pas heureuse en couple aussi. Oh, mais, est-ce qu'il va lui arriver la même chose ? Et en fait, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de trucs qui sont lancés, mais qui sont passés à la trappe dans la seconde qui suit. Et c'est triste à mourir quoi. Disons que c'est un film qui a un potentiel de taré et qui s'évertue à tout gâcher méticuleusement pour filmer des trucs dont on n'a rien à foutre.
Ce qui pourrait être super intéressant du coup, c'est de voir le bouquin dont c'était issu, si le bouquin est lui par contre plus centré sur l'enquête, et auquel cas ce sera encore plus dommage parce qu'ils avaient tout un matériau qui était totalement fourni.
Il paraît qu'il est plus glauque et qu'il est plus social et qu'il est plus descriptif, parce que évidemment quand on va voir chaque personnage, on a un certain portrait de la solitude aujourd'hui. Alors il y a aussi un passage, c'est dès la première scène du film se passe en Afrique. On se dit merde, pourquoi il y a un mec en Afrique sur une mobylette avec une chèvre sur le dos, qu'est-ce qu'il fait quoi. Et on se dit merde, qu'est-ce que c'est que ça. Donc on se doute qu'on va pas rester dans la campagne française profonde, mais du coup ça va nous ramener, mais cette piste là ne va être abordée que vers la fin, vers le dénouement. Voilà, donc c'est une promesse pour te dire, reste à la fin, ne te barre pas. Je te promets, il y a un truc bien à la fin. Le truc c'est que, mais c'est ça, c'est le seul intérêt du truc. Parce qu'effectivement, la dernière demi-heure, elle est sympa. Donc je vous dis, si vous pouvez rater la première heure du film, c'est pas trop grave. Ou alors, si vous le voyez en VOD, vous allez directement à la dernière demi-heure. Voilà. Honnêtement, c'est ce que je retiens du film. Et c'est ce qui permet de le sauver à peu près. Parce que sinon, non, ça... Si les réals refusent de traiter le sujet, on peut rien faire, quoi.
Dominique Moll, un ami qui vous veut du bien, mais qui visiblement ne le montre pas si bien. C'était l'avis de Thomas sur Seules les Bêtes. Comme vous avez compris, on le conseille pas tant que ça.
On va sortir de tous ces tumultes et on va aller au paradis. It Must Be Even, d'Elia Souleymane, film sélectionné en compétition à Cannes cette année, enfin 2019, parce que vous allez sûrement écouter en 2020, donc je ne sais pas. Thierry Herra, vous êtes allé voir ce film, racontez-nous.
It Must Be Heaven, c'est un film qui met en scène son réalisateur dans un personnage un peu de mutique, un peu clownesque, qui va venir être l'observateur de toute sa propre réalisation. C'est un réalisateur donc palestinien, donc on est d'abord en Palestine, avant de partir voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs, à Paris, puis à New York. Donc on est sur un petit voyage où on va observer l'absurdité du monde, un peu comme un Tati pouvait le faire, mais avec des plans un peu façon Wes Anderson, beaucoup de face cam, beaucoup de gros plans et beaucoup de couleurs. On va venir voir l'absurdité du monde en étirant les clichés. Ce qui est très agréable dans ce film, c'est qu'au lieu de les enfoncer et de les extrapoler, on va juste les étirer et ça donne une petite comédie charmante.
C'est vrai que c'est assez marrant parce que tu n'avais pas du tout pensé à Tati. Maintenant que tu mets le doigt dessus, oui, c'est assez flagrant. Et Wes Anderson, oui, carrément, même ce côté personnage observateur. Il y a un moment où vraiment où on se rend compte qu'il va vraiment être juste observateur de tout ça. C'est dès le début, il observe son voisin qui vient tous les jours. Bon, le premier jour, il vient lui voler des citrons. Comme ça, pépère, hein, le mec. Et à chaque fois, il fait « Non, voisin, je ne te vole pas. Je voulais te demander, mais vu que tu n'étais pas là, je me suis servi. » Le deuxième jour, il est en train de tout simplement lui tailler en mode « Oui, il fera un des fruits plus gros, donc je suis en train de te le tailler, je t'ai pas demandé ton avis. » Voilà. Et au fur et à mesure, après, il vient lui arroser. Enfin, voilà. Et du coup, c'est toujours ce personnage qui va l'observer de manière toujours plus comique. Et des fois, c'est juste ses petits yeux qui apparaissent comme ça par-dessus le balcon, qui regardent. Et moi, ça me faisait penser à Bill Murray dans Moonrise Kingdom, qui observe depuis sa fenêtre un peu ce qui se passe, avec en plus le même genre de coupe de cheveux, quoi. Et tu lui rajoutes le bonnet, on est dans la vie aquatique. Enfin, là, sauf que là, il a un chapeau. Ça fait penser à ça, en effet. Et le côté Tati, oui, c'est pour le côté, il y a très peu de dialogue, puisque le personnage ne parle pas. Il ne fait vraiment qu'observer tout le temps ce qui se passe. Donc, c'est vraiment une situation, lui qui observe, une situation, lui qui observe. Il y a des trucs très marrants. Nous, on pense à un passage où, quand il est à Paris, on voit un jeune qui est poursuivi par la police parce qu'il a un colis suspect qui balance sous une voiture. Et en fait, on voit les trois flics qui arrivent. Enfin, on voit donc le mec qui court. La caméra reste figée sur la rue parce que vu que les flics sont en segway, ils mettent 30 ans à réarriver. Et là, les flics ne peuvent pas s'arrêter une seule fois. Donc, ils vont essayer de regarder sous la voiture et de tourner autour sans arrêter le segway en essayant de se pencher. C'est ridicule et à la fois, ça fait une chorégraphie. Et lui, il observe. Voilà. Et c'est que des petites scénettes comme ça. Tout n'est pas toujours égal. Moi, ça me faisait penser, je me disais, il y avait un adage religieux qui disait qu'en réalité, le paradis n'existait pas, mais que le paradis, c'était la terre et ce qu'on en faisait. Et du coup, je me dis que c'est un petit peu là-dessus. It Must Be Heaven, le mec se dit, bon, si c'est ça le paradis, on va l'observer, en fait. Et du coup, il se rend compte que c'est quand même une vaste connerie. Et c'est assez marrant, quoi, du coup, de le voir qui observe, qui regarde sans juger, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en pense, cette espèce de monde totalement chaotique, mais comique autour de lui. Et il arrive à en rire, en fait, de situations qui ne sont pas toujours très marrantes dans le fond, quoi.
Il y a aussi un côté, donc en lisant quelques critiques, j'ai lu que certains parlaient de à quel point l'exposition du début de film en Palestine parlait de limite de l'oppression ou de la politique israélienne. Je vais être honnête, ça se sent pas, quoi. Je connais pas exactement les conditions dans ce pays, dans le sens où j'y suis jamais allé, donc je ne peux pas voir ce que ça donne dans la réalité. Mais on ne voit aucune différence en termes de gestion politique entre la Palestine, la France et les US. Il y a des flics partout quand même, qui viennent réagir à des trucs qui sont pas forcément les choses les plus importantes. Ils arrêtent à New York, ils arrêtent une nana qui s'est mis torse nu avec marqué Free Palestine, avec le drapeau palestinien, et c'est après elle que les flics courent. Bon, voilà, il y a des petites scénettes comme ça absurdes, mais il y a rien de vraiment qui souligne une certaine oppression. C'est plus au contraire, vraiment un constat de, oui, il y a une forme d'oppression, mais dans l'autre sens, les gens bougent quand même. C'est souligné par une mise en scène qui est donc vraiment découpée en scénettes, comme tu disais, tirée vraiment en sketch. Là, je retrouve un peu de Chaplin aussi, en fait, là-dedans, justement, un côté absurde comme ça. Et ouais, c'est entrecoupé de scènes très poétiques, musicales. Il y a des morceaux qui durent pendant toute une séquence. C'est hyper beau à voir, extrêmement bien filmé. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur.
Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir un film qui joue le sans dialogue, ou à part sur les sons extérieurs, et qui arrive quand même à te raconter énormément de choses par le regard, par plein de choses, quoi. Comme ça, tu peux tout à fait te passer de mots, et c'est ça qui était assez fort dans ce film.
It Must Be Heaven, un mélange entre Jacques Tati et Wes Anderson. Je garde la formule, ça me vend du rêve. Ça me vend vraiment du rêve, j'ai très envie d'aller le voir maintenant. J'en avais un peu envie avant, j'étais curieux, et là j'ai très très envie. Je me le mets sur ma liste ce week-end pour rattraper. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, voilà, ça sert aussi à ça. Clac. Clac.
T'es complètement cinglé.
C'est bon, ça va.
J'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire, là, vraiment, avant de mourir. Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement.
T'as oublié acheter une corde pour me pendre.
J'ai des goûts simples, moi. Ils sont pas simples, ils sont nuls.
Tu choisis un truc, je choisis un truc, et l'autre est obligé de le faire.
Je ne prends pas l'avion, hein, je te préviens.
Non, mais ici, c'est pas la démocratie. T'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT.
Mais je suis inscrit à la CFDT.
Oh, putain.
Ça va sans doute vous paraître fou, mais je ne suis pas malade.
Vous n'êtes pas malade?
Non, en fait, c'est lui qui est malade.
Ah. Ah, que serait un épisode de Claque sans une comédie française? On aborde le film le plus mal vendu de la semaine. Clairement, le meilleur reste à venir. De Mathieu Delaporte, Alexandre Delapartelière, les auteurs du prénom. Avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel. L'histoire d'Arthur, joué par Fabrice Luchini, qui doit annoncer à son meilleur ami César qu'il est atteint d'un cancer, seulement il n'ose pas lui dire, donc il y a un quiproquo, et donc César croit que c'est son ami qui a le cancer et pas lui. Et ils vont se lancer dans une liste des choses à faire avant de mourir, parce que c'est un truc qui sait, ben là c'est justifié, il nous reste 6 mois à en profiter. Le film est vendu comme une comédie, or c'est tout le contraire, c'est un sacré drame. C'est un drame hallucinant, n'est-ce pas Thierry? Je suis seul avec Thierry. Voilà, c'est un sujet qui a plombé l'ambiance. Hein. Tout le monde est en PLS, vous aurez bien compris.
C'est vrai que ça a été vendu avec une affiche qui avait quand même marqué « On n'a jamais autant rigolé depuis le prénom ». Alors, soit vraiment les ayants droit en com ont rien compris au film, soit Mathieu Delaporte et Alexandre Delapartelière sont des gens très étranges, tu sais, qui se baladent au rayon des personnes en fin de vie, en phase terminale, qui font « Les cancéreux, on va crever !» tu vois. Mais non, c'était pas drôle, non.
Ah non, mais moi, je voulais me barrer là pendant la première demi-heure, le début du film. Je voulais me tirer. C'est un film qui dure 2 heures. Et parce que c'était vendu comme une comédie. Et dès qu'ils font des tentatives de comédie, alors il y a des petits mots, il y a des mots d'esprit comme ça, mais ça tombe à plat tout le temps. C'est lamentable. Et c'est laborieux. Et le quiproquo tombe, mais comment il tombe ce quiproquo? Comment il est possible, quoi? Enfin, bon, bref. Au niveau de l'écriture, je trouve ça très faible, et pour une comédie encore plus. En plus, les acteurs n'étaient pas très bien dirigés dans ce début, dans cette partie qu'ils voulaient comédie, ils étaient en roue libre, ils n'étaient pas bien. Enfin, pour que Luchini joue mal, c'est que vraiment, ou alors il était mal dirigé, quoi. Enfin, c'était lamentable, et en fait, bon, en avançant dans le film, ça s'améliore un peu parce que ça assume le côté drame, et bon, ça rétablit un peu le truc, mais... C'est absolument pas... N'y allez pas pour voir une comédie. En plus, la promo axe sur la fameuse liste des choses à faire. C'est très vite expédié, on n'en profite pas des masses. Non, on est plus sur, justement, l'acceptation du cancer, de la maladie et comment est-ce qu'on aborde le sujet, mais on n'est absolument pas dans une comédie.
Mais j'ai pas trouvé ça lamentable, moi, ça va. Alors, je trouve que l'écriture est faible pour les mecs qui ont pondu le prénom, parce que c'était une pièce qui était brillante et, en tout cas, pour l'avoir découvert à l'écran... J'avais trouvé que tous les dialogues étaient brillants, ça se répondait, c'était parfaitement écrit. Là, il y a quelques longueurs, il y a quelques dialogues qui s'étirent un petit peu, mais j'ai trouvé ça quand même plutôt très correct. Et j'ai trouvé les acteurs plutôt bien dirigés, même dans les parties comiques. Moi, les parties comiques, elles ne sont pas spécialement tombées à plat. L'ironie de la situation fait qu'on les prend en rigolant jeune. Mais non, enfin, quand c'était des moments un peu légers, moi, ça m'a plutôt charmé, en fait. Et j'ai trouvé que le duo fonctionnait très bien, l'alchimie entre les deux était plutôt bonne et que les deux se débrouillaient assez bien. Donc, lamentable, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserais. Après, c'est une question de ressenti, mais bon, je suis pas extrêmement enthousiaste à la sortie, mais je suis quand même assez charmé, quoi.
Je trouve que ça ne marche pas du tout, ça cherche les mots, ça n'arrive pas à trouver, ça fait... Si, pour faire des jolies formules qui se croient spirituelles parce qu'elles ne marchent même pas, quoi, ça ne marche pas, et pour te dire à quel point ils n'arrivent pas à se débrouiller avec ce souci-là, c'est que le dialogue le plus important, pour éviter de faire un truc un peu faible, parce que justement là c'est le dialogue important qu'il ne faut pas rater, eh ben on va lever la musique, comme ça on n'entend pas les persos parler, ils n'ont pas écrit la ligne de dialogue importante.
Comment ? Moi, je suis d'accord. Comment je t'ai entendu souffler à ce moment-là ? J'étais là, au moment où ça a commencé, je fais « Thomas râle dans 3, 2, 1 » et là, oh, c'était tellement ça.
Mais c'est un aveu de faiblesse.
En fait, le seul truc, c'est que moi, ça m'a fait penser à un autre film tout du long. Et c'est peut-être ça qui m'a un petit peu dérangé. Ça m'a fait penser à, qui n'est pas très bon, hein, The Bucket List, qui était « Sans plus attendre » de Rob Reiner. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était pas très bon. Avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, qui sont deux mecs qui se rencontrent à l'hôpital. dans les derniers mois de leur vie. Et le personnage de Nicholson est un mec friqué à souhait qui justement a claqué sa thune en faisant plein de conneries, et sauf des conneries très très folles, et qui là justement pète un câble parce qu'il est en face d'un gars qui n'a jamais rien fait d'assez fou. Et donc du coup il va l'entraîner, et là c'est beaucoup plus centré sur les choses à faire, mais malgré tout aussi sur l'acceptation des choses, l'acceptation de la mort, l'acceptation de plein de choses. C'est à peu près foutu pareil, sauf que bon, là ils se connaissaient pas, là où là c'est des amis d'enfance, donc on parle aussi des amis d'enfance. Chacun connaît aussi les problèmes de l'autre depuis longtemps et va inciter l'autre à les régler. Ce qui peut apporter une dimension intéressante en te disant tes amis sont aussi ta famille ici, ils sont là depuis très longtemps. C'est un film sur l'amitié qui n'est pas inintéressant, pas forcément très bien traité, mais en tout cas sur le papier je trouve ça hyper intéressant en fait. Et le contenu des dialogues, s'ils n'étaient pas autant étirés, pourrait très bien marcher.
Bref, un bilan mitigé pour l'un, catastrophique pour l'autre. Le meilleur reste à venir. Eh bien justement, quelque chose de meilleur. Non, ça sera pas meilleur, non. On va faire un petit rewind sur la semaine dernière. Ça sera pas forcément meilleur, mais avec une invitée. Donc c'est meilleur.
Here we are.
Is this a bit where you murder me?
So what is it that you do?
I sing.
Oh, that's amazing.
Anyway, boring, boring, boring.
I'm not bored.
You are so strange. Where are you going?
When there.
Well, you're not homeless.
No, I volunteer here.
Why didn't you just get Saint tattooed on your forehead?
You were great at your job when you started, but now it's like you don't care anymore.
Hi.
Oh, hi. Hi.
Can I help?
Une petite séance de rattrapage. C'est Noël, c'est décembre. Et non, ce n'est pas le calendrier de l'Avent. Vous avez sûrement commencé à écouter les pastilles.
On peut, cela dit, parler d'un film qu'on a adoré, par exemple.
Alors bon, alors là, c'est une séance de rattrapage sur un film de Noël qui passe actuellement, ce début de mois de décembre. Last Christmas. Quel beau nom de film de Noël. On dirait un téléfilm d'M6. Là, c'est un magnifique film avec Emilia Clarke dans le premier rôle et avec un scénario écrit par la grandiose Emma Thompson, présente également au casting. Et pour parler de ce grand film, de ce beau film de Noël, Thierry, nous avons une invitée, Mélanie, du podcast Il se confie. Salut Mélanie.
Salut.
Alors, c'est l'histoire de Kate, ou Kathleen, hein, qui est une fille un peu paumée. Elle ne s'aime pas trop, elle ne se fait pas confiance. Bon, elle fuit sa famille un peu et elle travaille dans un magasin de l'enfer, enfin dans un magasin de Noël, où elle joue un petit lutin et elle vend des articles de Noël made in China, tous les plus improbables les uns que les autres. Elle n'a pas trop de succès aussi parce qu'elle passe des auditions, mais elle arrive toujours à la bourre et puis elle les rate et puis ça passe pas. Rien ne va, elle enchaîne les histoires sans lendemain. Bon bref, ça va pas fort, c'est une vie de merde, on peut le dire. Jusqu'au jour où elle tombe sur Tom, le beau Tom, joué par Henry Golding. Et une histoire va commencer, mais il apparaît un peu comme il veut. Et quel est le secret de Tom ? Oh.
Moi, je n'avais pas regardé l'histoire en détail. Hein. J'avais juste vu les interviews de l'actrice. Et waouh, ils m'ont perdu. Hein. Ils m'ont perdu à la moitié. Non, avant. Hein, ils m'ont perdu. Il n'y a rien qui tient, en fait. Il y a du début à la fin, à part la musique, du coup. Parce que ça, on n'a pas trop parlé.
Oui, l'argument principal du film, ça s'appelle Last Christmas, comme la chanson d'un certain George Michael. Et le genre de chanson qu'on n'entend pas du tout en boucle au mois de décembre.
Pour la petite anecdote, et ce qui fait que, bon, même si de son vivant il l'aurait peut-être fait, mais je trouve ça extrêmement glauque qu'ils aient fait quand même ça. Les deux morceaux les plus connus de George Michael avec son groupe Wham, c'était donc Last Christmas, I Gave You My Heart. Donc, Noël dernier, je t'ai donné mon cœur, on va quand même bien le préciser. Et aussi Wake Me Up Before You Go, réveille-moi avant que tu ne partes. Pour ceux qui ne le savent pas, George Michael est mort le jour de Noël et a été découvert par son copain qui le réveillait.
C'est beau, un scénariste ne l'aurait pas osé.
Voilà, c'est ultra glauque de sortir un film qui s'appelle Last Christmas sur des chansons de George Michael pour Noël. Quoi. Pour moi, c'est pas un hommage là.
En plus, c'est une belle histoire quand même, l'histoire de ce film, parce que c'est l'histoire d'un producteur qui, en écoutant Last Christmas, s'est dit « Hey, c'est super, on pourrait en faire un film ». Et donc, les producteurs ont demandé à Emma Thompson « Hey Emma Thompson, tu voudrais pas écrire un scénar ?» Ouais, ok, donc elle écrit avec son mari Guy Wise, voilà, tout va bien. Puis finalement, oui, bon, ça marche pas trop, c'est bien, mais pas plus que ça, donc on veut pas trop le faire. George Michael casse sa pipe, hop, on ressort le dossier, on va voir le producteur de George Michael, qui leur fait passer des chansons exclusives un peu qu'on gardait pour les albums posthumes, ou je ne sais quoi, enfin bon, bref. Et là, les prods se disent, tiens, c'est vachement bien, là, il y a un truc à faire, on continue. Et ils ont relancé la prod et le tournage. D'ailleurs, le film arrive maintenant, là, un an ou deux après la mort de George Michael. C'est absolument pas glauque comme histoire.
Ah non, mais moi, je savais pas du tout l'histoire. Donc là, ça remet une couche sur le côté où j'ai pas passé un très bon moment. Donc, bon, ok, voilà.
Et on va essayer de caser des chansons de George Michael à tous les passages, à toutes les occasions, que ça soit la chorale de la petite fille, au chant dans la rue, à la radio, le jukebox, les reprises de Noël dégueulasses pour les machines à vendre, pour les faux anges ou je ne sais quoi.
On a du bon son dans les oreilles.
Mais pas forcément, parce que c'est pas que des bonnes reprises.
Oui, c'est vrai qu'il y a, c'est pas faux. C'est pas faux, il y a des acapellas qui laissent à désirer, effectivement.
Emilia Clarke, je suis désolé, c'est pas Barbara Streisand, il y a une référence.
C'est ça, rappelez-vous, Star is Born, à l'époque, Barbara Streisand, on pense qu'on veut de la nana, elle savait chanter. Hein. Et elle le sait toujours, à peu près.
Sur une échelle des téléfilms d'M6, on le place où?
Bah, quand t'as l'impression que, je vais reciter ce titre parce que ça me fait pisser de rire, quand t'as l'impression que Flocon d'amour sur Netflix est sûrement mieux que ça, c'est qu'il y a un souci, quoi.
Je connais pas Flocon d'amour. Alors, sur l'échelle d'M6, je sais même pas si... Ouais, ça passera, ça c'est sûr, mais moi, je le recommanderais même pas aux gens, en fait. Même sur M6, en fait, même en n'ayant pas payé la place de cinéma. En fait, le premier argument qui m'a vraiment donné envie de me motiver à aller en salle, c'est le test de Bechdel. Et ouais, en fait, je voulais voir ce que ça donnait, parce que ça fait pas très longtemps que je le connais, ce test. Hein, et je voulais voir un peu ce que ça donne, et je me suis dit, bon, voilà... Les comédies romantiques n'ont plus de succès au cinéma, il y en a de moins en moins. Là, il y a eu beaucoup de promos et je me suis dit, bah, va voir ce que ça donne. En plus, l'acteur, il n'est pas connu, mais ça change, il est typé asiat. C'est cool pour la diversité, etc. Et je me dis, bon, on va peut-être avoir un truc un peu féministe. Et bah non.
Ah ouais. Moi, le test de Bechdel, je t'avouerai que je suis toujours un peu perplexe là-dessus, c'est ce qu'on se disait, parce que je pars du principe que si le film met en plus l'accent là-dessus, c'est qu'il l'a écrit pour que ça le passe. Et qu'il l'a peut-être pas écrit dans des meilleures intentions et qu'on se rende compte qu'il le passe derrière. Quelle est la réalité, je sais pas. Mais du coup, moi, j'y suis pas allé pour ça, j'y suis allé parce que Paul Feig. Ce mec fait des films assez nazes, hein, en réalité. Ghostbusters, c'était pas si bien que ça. Mes meilleurs amis, je suis pas si fan que ça. Mais quand je les ai vus, c'est avec le recul que je les aime moins et j'ai passé des moments sympas. Et donc là, je me suis dit, bon, Paul Feig, allez, il sait filmer les nanas, puisque généralement, il fait ça avec la bande Kristen Wiig, Melissa McCarthy, tout ça. Il aime bien filmer ces nanas-là. Il sait faire, pourquoi pas, quoi. Et là, c'est plus le scénario qui plante. Enfin, sa réelle est dégueulasse, hein, mais on a l'impression qu'il est aux abonnés absents, quoi. Qu'ils ont filé ça à Yes Man du dimanche en se disant, de toute façon, tant qu'il y a des bons sentiments et que les gens chient à un minimum, ça va passer, quoi.
Mais on pleure pas, en fait. Et puis l'autre argument, au-delà du test, c'était surtout que Emilia Clarke, qui est l'actrice principale, elle avait fait une comédie romantique il y a quelques années qui s'appelle Avant toi, et le film était vraiment bien réussi. Donc je me suis dit, tiens, elle a peut-être sa place dans les comédies romantiques, et là, waouh. Mais en fait, je pense que c'est pas non plus de sa faute, hein. Le scénario est vraiment, vraiment, même les dialogues, hein, c'est compliqué.
Oui, parce qu'en plus, on se force à reprendre des paroles de chansons, mais ça tombe un peu à plat, c'est forcé, quoi.
Parler de la maman.
Ben, jouée par Emma Thompson.
Parce que c'est là où c'est un gag, hein. C'est une mascarade.
Oui, Emma Thompson, c'est vrai qu'on la voit au début dans la chorale en ex-Yougoslavie quand sa fille est en train de chanter. Et du coup, on voit cette espèce de couple avec beaucoup de Yougoslaves, des gens typés, et Emma Thompson en plein milieu. Et je me suis dit, ah oui, en fait, dans le scénario, ça va être genre un ex-Yougoslave qui s'est marié avec une Anglaise et qui est parti vivre avec elle. Parce qu'Emma Thompson, réellement, elle apparaît très tard dans le film. Et quand elle apparaît, et qu'elle nous sort son accent à deux balles, j'étais là, oh putain de merde, elle a décidé de jouer une Hugo. J'étais assez surpris. Moi, je me pose de sérieuses questions. Je me dis, bon, de toute façon, une grande actrice comme elle l'est n'est pas forcément une grande scénariste. Hein. Mais quand ça atteint ce point-là, parce qu'il faut aussi penser qu'en plein milieu d'un film qui est déjà dense sur le romantisme et qui rate totalement son sujet, elle nous rajoute du propos politique sur le Brexit, sur...
la diversité.
Sur la diversité, la perception des étrangers, le racisme. Et ça débarque en plein milieu sur trois scènes et ça ressemble à rien du tout. À part, t'en fais pas, maman, ils vont pas te virer, les Anglais t'aiment.
Oui, le coup du Brexit, je me suis dit, c'est beaucoup trop. En plus, d'autant que la diversité, elle a pas besoin parce qu'elle est déjà, elle est déjà là. Il y a que des couples mixtes, à part les parents, il n'y a que ça dans le film, donc c'était pas la peine d'en rajouter, en fait.
C'est de la case à cocher, quoi. Et du coup, je me pose des questions en me disant, est-ce que c'est pas Emma Thompson qui devient sénile? Non, voilà. Et l'autre question que je me demande, c'est dans le genre de rôle à contre-emploi, elle a peut-être sûrement fait des comédies, on a Michelle Yeoh qui joue donc la patronne du magasin de Noël dans lequel Emilia Clarke travaille. Donc Michelle Yeoh qui est une actrice de film de kung-fu, qui est très très bonne actrice de film de kung-fu, parce que c'est une bonne cascadeuse, elle sait faire des films d'action, et qui se retrouve là donc à jouer le rôle, faut le dire ce qui est, du stéréotype de la méchante tenancière de magasin chinoise. Et je me demande, tiens merde, elle sait plus se battre, donc du coup elle va faire des comédies comme ça toute sa carrière, ça me rend triste en fait ce film.
C'est la magie de Noël. D'ailleurs sa boutique, elle vend des couillandres de Noël quoi, des espèces de trucs, là, des gadgets à la con là. Du coup en fait, je veux dire, le 25 décembre c'est fermé pour le reste de l'année quoi. Elle est ouverte quoi, 3 mois par an cette boutique.
On est devant une comédie romantique, donc ce qui est important c'est surtout de parler du romantisme, donc le couple, comment ça se passe, est-ce que ça fonctionne?
Non, pas du tout, non, y a rien qui fonctionne, hein. je reste sur ma faim, hein. je sais même pas par où commencer, vraiment le...
Il y a quand même un truc, alors le romantisme, ben le romantisme, il n'y en a pas. Le beau gosse est là, ok, mais bon, voilà. Et puis il y a Emilia.
Le beau gosse, c'est pas Jude Law, c'est pas Brad Pitt, non, c'est pas. Moi, en tant que femme, en tout cas, avec mes goûts à moi et mon habitué des comédies romantiques, j'étais. Par exemple, si je regarde, bon, c'est vieux et je suis plus. Voilà, j'ai la trentaine, mais Holiday avec Jude Law, même s'il est un peu léger comme film, ben on est transporté et au pire, on regarde Jude Law se mordre la lèvre, on regarde. Là, j'étais pas absorbée par l'acteur. Il est tout lisse, il en fait beaucoup trop. Ok, on est dans la romance, dans Noël, mais il en fait trop, quoi. Ça va trop loin, on n'y croit pas, en fait.
Et alors, du coup, c'est ce que j'allais dire, parce que, bon, en général, dans les comédies romantiques, le beau gosse, enfin, la personne beau gosse, c'est surtout essentiellement le mec. Et en fille, on prend, ben, bon, une jolie fille, mais quelqu'un à qui on peut s'identifier, The Girl Next Door, la fille à côté. Emilia Clarke, est-ce qu'on peut s'identifier?
Je pense que peut-être que ça s'adresse aux plus jeunes, à un plus grand nombre, parce que la vendeuse, un peu bête, maladroite, on est un peu dans... Parce qu'autant, par exemple, si on reprend, c'est pas Noël, mais Bridget Jones, elle est quand même journaliste, elle fait des reportages, on sent qu'elle est pas bête. Là, on sent limite, dans le film Emilia Clarke, qu'elle est un peu teubée, en fait.
Il y a un truc, alors, j'allais pas dire teubée, mais on dit qu'elle est malade pendant une bonne moitié du film. Bon... Est-ce qu'on peut spoiler le film ou pas?
Allez, si jamais vous avez l'intention de le voir, et franchement, ça veut dire que vous n'avez pas écouté ce qu'on est en train de vous dire, on va spoiler, il faut couper maintenant. Il est mort! Ah, il est mort! Il est mort et ça arrive de nulle part et c'est nul quand ça arrive!
Alors, je voulais pas spoiler ça, mais bon, maintenant qu'on y est, ok, très bien. Non, on dit pendant le début du film qu'elle est malade, elle a pas pris ses cachets, elle est pas allée voir son médecin et tout. Et comme elle a pas de maison alors qu'elle bosse, quoi, je veux dire, elle aurait les moyens d'avoir un loyer, c'est pas la question. Parce que, bon, je me dis, en fait, elle a un problème psychiatrique. C'est-à-dire.
C'est une tumeur au cerveau.
Ouais, ou un truc.
Qui fait qu'elle perd les pédales.
Je me suis dit, son médecin, c'est son psy, en fait. Et en fait, elle a pas de maison parce qu'en fait, elle est trop instable. Parce qu'en fait, elle s'est faite opérer du cœur. I give you my heart. Elle a donné son cœur. Quelqu'un lui a donné son cœur en fait. Et en fait, c'est le beau gosse qui est mort et qui en fait, on a pris son cœur après un accident de bagnole et on l'a mis dans Emilia Clarke.
Déjà, quand tu le racontes, alors qu'on a vu le film, ça paraît tellement pas crédible ce scénario là.
Et du coup, en fait, ben, elle le voit, il lui parle et puis c'est vraiment lui parce qu'il lui indique faire des trucs qu'elle-même, elle lui aurait pas pensé toute seule, comme aller squatter un appartement qui est exactement le sien ou aller squatter un banc dans un parc qui est ben, celui sur lequel il y a gravé le nom du mec.
Vu qu'on te met jamais, à part dans quelques dialogues, l'accident en abîme, on sait pas à quel point c'est important pour l'histoire vu que c'est jamais amené, il y a quand même un manque de cohérence parce qu'elle arrive à le toucher, elle arrive à l'embrasser. Normalement, il ne devrait pas arriver à là. Et c'est là qu'on se pose la question du pourquoi est-ce qu'il n'arrive jamais à ce moment fatidique du moment où ils doivent se toucher. Et là, ça aurait pu jouer là-dessus. Mais du coup, ça te retire toute crédibilité à tout ce qui s'est passé avant.
Mais ils se touchent, c'est... ils se touchent, ils font que s'embrasser ou un peu la main, mais c'est pas grand-chose. Et puis, comme elle est à fond dedans et qu'il a réussi à lui ouvrir son appart quand même, donc bref, je sais pas...
Il y a un parallèle avec le développement personnel sur le fait d'apprendre à vivre avec ce second cœur, là, ce nouveau cœur tout neuf, et de l'accepter et de devenir une nouvelle personne grâce à l'être humain qui avait le cœur d'avant et qu'avec la greffe, elle est devenue une nouvelle personne parce qu'elle a pris un peu de l'amour et des sentiments du donneur.
Je pense que c'est juste un truc fantastique qui a été mal développé et que c'est vraiment lui, c'est vraiment un fantôme qu'elle voit. Mais
des arguments à ce film.
Mais je comprends, je trouve ça louable.
Ah bordel, et Shyamalan, il faut qu'il arrête de juste envoyer des twists aux productions sans mettre des scénarios autour. Hein.
D'après une idée de Shyamalan.
Il est mort, non mais tu l'as déjà fait celle-là.
Mais pour revenir à l'identification, ouais, il y a tout qui est... Ah je sais, pourquoi faut tout le temps que la nana soit un peu cruche, un peu instable? Parce que déjà, Bridget, elle a ce côté-là où elle sait pas trop où elle en est avec sa famille, son père est un peu sa mère est névrosée, elle se paraît. Il y a toujours un truc. Pourquoi la nana, elle pourrait pas être juste. Ouais, ça ferait pas un film peut-être. Après, ça change. En fait, ça, c'est nouveau, je trouve, depuis quelques années, ce côté, on va dire, plan cul, de se taper des gars facilement dans les bars. Avant, elles étaient plus à se morfondre chez elles. Et, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que là, on a le level moderne Tinder. Elle en parle d'ailleurs dans le film des applications de rencontres. Donc ça lui donne un côté où les jeunes, je pense les vingtenaires, vont peut-être un peu plus s'identifier sur le côté « Bon, bah, ma vie, c'est de la merde, mais au moins, je baise. » Voilà.
Ok, Emma Thompson n'est pas si sénile parce qu'elle a compris un peu les jeunes.
Parce que c'est un des gros problèmes des comédies romantiques, hein, c'est que ça influence la société. La culture pop, elle a une influence énorme sur le rapport amoureux, etc. Et donc là, est-ce que c'est en... Ils ont pris un autre tournant, mais peut-être pas le bon non plus. Hein.
Donc, mesdemoiselles, si ça ne va pas, mettez votre plus beau manteau léopard et allez dans les bars avec une application de rencontre.
Surtout dites oui au premier inconnu qui est l'Argentine.
Même il fait du vélo.
Mais après, puis pareil, je ne sais pas si on en a dit au début, mais sur le fait, y a quelqu'un qui a dû le dire au début, je ne sais plus lequel de vous deux, mais sur le fait que oui, elle sort. Au début, quand tu résumais le film, elle sort, elle se tape des gars, etc. C'est pas forcément, on vient d'en parler, mais c'est pas forcément le cas d'une grande majorité des gens non plus. On fait croire dans l'inconscient collectif que beaucoup de femmes font ça. Oui, il y a un côté cool, c'est la pub de Tinder, mais non. Enfin, la nana, elle sort dans un bar, elle reste 10 minutes dans le bar.
Elle couche le premier soir.
Ouais, et puis à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se prend la tête avec quelqu'un, elle claque la porte, elle va dans un bar, elle boit une bière, elle se fait offrir un verre, elle couche avec un gars.
Et il y a un mec un peu romantique, bon, mais ça y est, on baise, quoi. Non, mais...
Ouais.
Donc c'est vachement bien pour toutes les filles qui militent contre le comportement de « il faut pas, on a le droit de dire non » et tout ça, on met Emilia Clarke qui rend ça automatique, qui comprend pas qu'on le fasse pas.
Mais surtout qu'ils te mettent ça sur le compte du fait qu'elle est perdue et pas sur le compte du fait que c'est une femme libérée qui s'assume et qui sait ce qu'elle fait. Parce que là, ce serait le cas, on la verrait en mode « moi j'en ai rien à foutre, j'ai envie de me taper plein de mecs et j'y vais, c'est ma vie, fous-moi la paix », il y aurait aucun souci en fait.
Mais voilà, clairement, non, non, mais effectivement, c'est ça. Mais après, ils veulent faire un parallèle avec l'autodestruction. Elle a un cœur là où moi j'étais un peu en colère. Je me disais, elle a la chance d'avoir une grève de cœur là où il y en a plein qui attendent. Et elle le détruit en buvant, en se tapant des gars, en ayant des conduites à risque. Donc, je pense qu'ils ont voulu jouer là-dessus aussi sur le fait qu'elle limite elle rejette son nouveau cœur et elle préfère mourir. Enfin, je sais pas, je vais loin encore hein, peut-être.
Non, mais en plus, oui, c'est vrai que moi je trouve ça très bizarre. C'est très flou comme scénario parce que. Le premier plan qu'on a, enfin la première scène, elle est dans une chorale à l'église en train de chanter, elle est choriste au centre du chœur et on voit qu'elle, et donc c'est une petite fille à l'église bien, donc on se dit bon bah, ça va être une petite fille sage, et on la voit 10 ans après complètement déprimée, détruite et tout, et on se dit on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas trop, est-ce que c'est l'accident ? Bon, au bout d'un moment on se dit allez pourquoi pas, mais y a la limite, la scène du départ avec la chorale. À part pour chanter du George Michael avec une chorale, ça ne sert absolument à rien.
En plus, oui, de toute façon, ça rejoint ce que tu disais. Le film essaye de parler du fait donc, justement de pas être dans l'autodestruction, puisqu'il faut d'ailleurs qu'elle se rachète en faisant des actes de bonne foi, en faisant des bonnes choses pour pouvoir aller mieux, très catholique. Le seul truc à la grande limite, et c'est qu'un détail dont on n'en a rien à foutre au final, qui n'est pas mauvais dans la morale de l'histoire... Vu qu'on a dévoilé, on va parler de la fin. C'est du coup, voilà, elle comprend que oh, mon amour est mort, machin, nanana. Elle comprend qu'il faut qu'elle fasse du bien, qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle. Et moi, j'avais très très peur qu'il nous fasse un truc du genre, alors qu'elle est en train de chanter, elle regarde le gars qui lui paye un café à un moment et qui est gentil avec elle, qui bosse au truc de bénévole et qu'elle se dise ah, mais en fait, il était là depuis le début. Et non, c'est cool, ils ont pas fait ça. Elle se trouve pas quelqu'un à la fin, elle finit toute seule. Et il y a le côté fais-toi du bien, vis ta vie, vis tes passions parce que t'as pas à dépendre de quelqu'un, tu dois aussi vivre pour toi. Et faire tes deuils avant d'envisager, d'avoir des relations. Ça, j'ai trouvé ça cool. Et c'est dommage que ce soit pas appuyé, quoi.
Et c'est ce que relève la plupart des magazines féministes. C'est là-dessus qu'ils ont, notamment le test, qui relève le test, c'est le fait qu'elle finit le film, puisqu'on raconte la fin, comme tu dis, pas avec un mec. Là où avant, toutes les comédies romantiques, même le troisième Bridget Jones, elle finit avec quelqu'un, avec un bébé, etc., etc.
Et c'en est presque triste que ce soit pas surligné. C'est le seul truc qui soit pas surligné du film, quoi. Le rideau se ferme à côté.
C'est un signe qu'on
c'est
a trop parlé.
Qu'on a trop parlé. Ouais,
il faut sortir, là. Il faut partir, messieurs. Voilà.
Qu'est-ce que vous enregistrez là, un podcast encore
Bien. Bon, c'était notre avis sur ce chef-d'œuvre Last Christmas. Merci, Mélanie.
Merci à vous deux.
Bon, parle-nous un peu de ton podcast quand même. C'est quand même mieux que Last Christmas.
Mais c'est une discussion tous les 15 jours avec un homme de 18 à 99 ans, de partout en France, voilà, selon les moyens techniques et géographiques.
Il se confie sur les réseaux sociaux.
On a tout sur ilseconfie.com au pluriel.
Parfait, le lien en description, comme d'habitude.
Et t'as eu quelqu'un de 99 ans ?
Non, le plus vieux pour l'instant c'est 70 ans, ce qui est déjà pas mal. Et c'est un Normand, c'est pas un Parisien.
Eh bien merci, et peut-être à bientôt pour un nouveau film ou dans ton émission, je ne sais pas.
Un truc, pas une bouse en fait, un autre truc.
Ça me rappelle un peu Saeptem, tu sais, c'est le genre de personne qui se dit « Putain, on est venu une fois, c'était de la merde » et qui sont toujours parvenus depuis.
Ah ouais, Saeptem, moi je lui dois une invite. Waouh, quelle semaine, mon cher Thierry.
Semaine de merde.
Oh punaise. Bon, alors j'ai compté sur 7 films, on en recommande un. Donc c'est vraiment une semaine catastrophique. Je crois qu'on a besoin de vacances, Thierry. Par contre, la semaine prochaine... Bon, alors on va faire une petite pause sur les sorties ciné classiques parce qu'on va partir en festival. Donc on sera au pif pendant une semaine. On ne vous laisse pas sans rien. On vous a préparé, on vous a gardé au chaud un hors-série enregistré pendant Paris sous les pods. 7 ans de réflexion, vous allez voir. Un petit retour en arrière. Et on parlera notamment du prénom que tu as plus apprécié que...
Tout petit peu plus.
Que le meilleur reste à venir, effectivement. Aussi, beaucoup de programmes pour cette année, avec des hors-séries aussi pendant les vacances, mais on en parlera juste avant les vacances, du coup. Hein, voilà. C'était Certains les Machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode ni aucune pastille du calendrier de l'Avent. Et ben ouais, faut en profiter, c'est Noël. Vous pouvez aussi partager l'épisode et partager sur les réseaux sociaux, commenter également les épisodes, nous donner votre avis. Peut-être qu'il y a un film à sauver parmi tout ça, peut-être vous n'avez pas aimé It Must Be Heaven, parce que là ça serait une complète. On vous attend. À demain pour une nouvelle pastille du calendrier de l'Avent, ou à la semaine prochaine pour un petit hors-série.
Kipiti.
Et dans 15 jours pour un épisode classique.
Tout classique.
Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Bon, on déconnait là pendant l'émission The Brooklyn Affair. C'est quand même le film qui est tellement sûr de se casser la gueule qu'il met des pubs la semaine de sa sortie, donc devant lui-même. C'est-à-dire que même les gens qui vont voir le film voient la bande-annonce avant d'aller voir le film. C'est merveilleux. Et là, cette semaine, on est gâtés en matière de pub parce qu'on a la bande-annonce pour le film qu'on va voir. Et en plus, on a une prestation de Lily Rose Depp, mes enfants.
Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Waouh !
C'est un mauvais jeu d'acteur.
Le numéro mon numéro préféré.
C'est la magie dans vos yeux et vos oreilles, n'est-ce pas, Karl ?
Ah ouais, moi qui avais tellement envie d'acheter du parfum pour Noël.
Ah ben là, tu es gâté. Non, oui, là je pense que l'Oscar de la meilleure actrice cette semaine va à cet espoir en puissance, cette valeur sûre du cinéma.
Il va au cheval dans Jumanji.
Il était beau, ouais. Ce cheval. S'il faut revenir dessus, franchement, j'ai pas arrêté de m'extasier. Ce cheval était sublime.
Il avait des putains d'ailes.
C'est un Pégase.
Non, c'est pas un Pégase. Le Pégase a des vraies ailes. Là, il avait des ailes façon chauve-souris. Donc, c'est plus proche des animaux dans Harry Potter. Là.
C'était un chauve-cheval.
Chauve-cheval, exactement.
Exactement. Ouais, enfin, en gros, le seul truc qui le rendait magnifique, c'était Danny Glover. Il avait sa tête d'ailleurs dans le truc. Oh.
On a déjà fait Cats ou pas?
Qui vient le voir avec moi pendant que Thomas est en vacances?
J'aurai un truc ce jour-là.
Oh là 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 là, mais où sont passés, comme dirait Kevin Hart, mais où sont passés vos couilles?
Oh putain, cette séquence était si horrible!
C'était bien long, hein? Ah putain! Faisons des blagues sur la bite!
C'était la semaine du malaise, j'ai l'impression. C'était...